La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à toutes et tous à bord de la Science s'amuse, la croisière scientifique de l'Université de Montpellier en collaboration avec Divergence FM. Et pour profiter du voyage, nous vous invitons à vous allonger confortablement sur un des divans à votre disposition. Respirez et plongez dans les méandres de la psychologie humaine. En juin dernier, The European Journal of Personality interrogeait dans un article le rôle de nos différents traits de personnalité dans les réactions comportementales que nous développons face à l'épidémie de Covid-19. Une étude menée aux États-Unis sur plus de 2000 participants par l'Université de l'État de Floride et l'Université de Montpellier. Alors, le fait que vous soyez légèrement instable émotionnellement, extraverti ou empathique, a-t-il une influence sur votre disposition à vous laver les mains ou à porter un masque ? Votre autodiscipline ou votre colère a-t-elle dirigé inconsciemment votre gestion des stocks pendant le confinement ? Notre invité du jour vous dit tout. Il est chercheur à Euromov en psychologie de la santé. Yannick Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Avec moi pour diriger cette interview, la consciencieuse, extravertie et altruiste Aline Perriot.
Bonjour Lucie.
Bonjour.
Bonjour
Yannick.
Bonjour.
En seconde partie d'émission, nous retrouverons comme chaque semaine notre séquence en salle de machine et la chronique d'Amrine. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Alors Yannick Stéphane, donc cette étude, vous l'avez commencée en janvier-février, quand l'épidémie n'était pas encore déclarée aux USA. Donc on suppose qu'à la base, vous n'étiez pas parti pour travailler sur le Covid.
Non, pas du tout. En fait, on avait commencé à faire des mesures de personnalité, de l'état de santé, mais sans avoir aucune attente sur le fait de travailler sur le Covid derrière, parce que finalement, l'épidémie n'était pas encore tout à fait implantée. Donc, on a attaqué une première vague de mesures qui, a priori, n'était pas du tout destinée à travailler sur le Covid, ouais, c'est ça.
Et vous saviez sur quoi vous vouliez travailler?
Ouais, ou... ouais, en fait, nos axes de recherche portent globalement sur le lien entre la personnalité et la santé. Donc, en fait, on voulait tout simplement entamer une étude, peut-être longitudinale, visant à tester le lien entre les traits de personnalité et l'évolution de l'état de santé dans une population représentative de la population nord-américaine. Mais on n'avait aucune attente sur le Covid, quoi, finalement.
Donc cette cohorte, je l'ai dit, elle était composée de 2000 personnes à peu près. Quels étaient les critères sélectifs, entre guillemets, ou les caractéristiques plutôt de cette cohorte?
Alors, on a essayé d'avoir des critères d'inclusion qui étaient les plus généraux possibles et de respecter à la fois la représentativité de la population nord-américaine en termes de sexe, d'appartenance culturelle, etc. Voilà, c'est quelque chose d'assez... c'était une mesure qui était plutôt aléatoire, oui.
Et du coup, pour cette étude, vous avez commencé par évaluer la personnalité des participants. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer la personnalité de quelqu'un?
Alors en fait, c'est assez simple. C'est juste par un questionnaire d'auto-évaluation. C'est-à-dire qu'on pose des questions aux gens sur leurs tendances habituelles à penser, à agir et à ressentir. Par exemple, on leur demande si la plupart du temps, ils ont tendance à être bavards ou à être plutôt organisés ou à être plutôt actifs ou hyperactifs. Ce sont juste des exemples.
On ne fait que leur faire des questionnaires, on ne les observe pas dans leur vie quotidienne.
On peut aussi le faire, c'est-à-dire qu'il y a une autre façon de faire qui est de demander à des proches d'évaluer les tendances habituelles à penser, à agir, à ressentir des personnes cibles. Donc on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de liens entre les deux. C'est-à-dire que la façon dont on s'évalue, dont on se décrit, est très proche de la façon dont les gens nous voient finalement.
Et quels sont les grands traits de personnalité qui ressortent? Le modèle que vous avez employé s'appelle le modèle des Big Five, c'est ça
ouais.
Et du coup, qu'est-ce que c'est que ce modèle? Qu'est-ce qui définit comme trait de personnalité chez les gens?
Alors, ce modèle en 5 facteurs, donc au modèle du Big Five, c'est un modèle qui décrit en fait la structure de la personnalité humaine. Et on s'aperçoit que la structure de la personnalité humaine s'organise en 5 grands traits qui sont l'extraversion, c'est-à-dire une grande tendance à ressentir des émotions plutôt positives, une grande tendance à la sociabilité. L'instabilité émotionnelle, alors on parle de névrosisme, mais nous on utilise plutôt le terme instabilité émotionnelle, qui est une grande tendance à l'anxiété, à percevoir l'environnement comme étant menaçant. Il y a l'ouverture aux expériences, qui est une tendance à la curiosité, à rechercher des expériences nouvelles et inhabituelles. Le caractère agréable, qui est plutôt une tendance à l'empathie, à l'altruisme. Et le caractère consciencieux, qui est une grande tendance à l'autodiscipline. Et en fait, on s'aperçoit que ces 5 grands traits sont présents chez tous les individus. c'est vraiment une structure universelle. Et après, il va y avoir des variations entre les individus sur le positionnement sur chacun de ces traits.
Donc on est tous plus ou moins sur une certaine échelle de chacun de ces cinq traits que vous venez de décrire.
Exactement.
Donc finalement, c'est en mars que vous avez cherché à établir, que vous avez redirigé votre enquête sur le Covid, en cherchant à établir des corrélations donc, entre ces grands traits de personnalité et les comportements face à l'épidémie. Est-ce que vous pouvez nous dire quel type de comportement vous avez évalué justement ?
Alors, on a évalué déjà des comportements et aussi des réponses affectives. On a commencé par une catégorie de réponses affectives qui étaient les inquiétudes à l'égard de l'épidémie, alors des inquiétudes vis-à-vis de l'état de santé, des inquiétudes vis-à-vis des finances. Ensuite, on avait des comportements plutôt de précaution, c'est-à-dire le fait d'emmagasiner de la nourriture, de faire le plein de papier toilette, parce que finalement, ça a été un problème majeur aux États-Unis.
Et ensuite, ici aussi, je
probablement, je ne me souviens plus. Et ensuite, on avait aussi les gestes barrières. Donc, les gestes barrières très communs, quoi, le fait de se laver les mains, le fait d'utiliser du gel, le fait de maintenir la distance physique, la distanciation sociale, le fait de porter un masque. Donc, on avait tous ces comportements, alors des comportements très, très spécifiques à l'épidémie. Et ensuite, on a plutôt étudier la tendance à adopter globalement ces comportements.
Et ces fameux gestes barrières que vous venez de décrire, est-ce que vous avez trouvé un lien entre type de personnalité et respect de ces gestes barrières ? Qui est-ce qui va le respecter le mieux ou le moins bien en fonction de sa propre personnalité ?
On a réussi en fait à dégager trois grandes relations entre les traits de personnalité et les gestes barrières. On s'est aperçu par exemple que les gens qui ont un niveau élevé d'instabilité émotionnelle avaient moins tendance à respecter les gestes barrières. Donc, en fait, ça allait un peu à contresens par rapport à ce qu'on attendait. On s'attendait à ce que les gens qui étaient plutôt anxieux adoptent plus de gestes barrières. Ben là, non. En fait,
Niveau élevé d'instabilité émotionnelle, ça se définit par un haut niveau d'anxiété.
Voilà, c'est ça, en grande partie. Et donc, on s'est aperçu que cette tendance à ressentir de l'anxiété s'exprimait dans un moindre respect des gestes barrières. Par contre, on s'est aperçu que les gens qui avaient un niveau élevé d'extraversion respectaient plus les gestes barrières. Et les gens qui ont un niveau élevé de caractère consciencieux, donc qui sont plus autodisciplinés, sont des gens qui vont plus respecter les recommandations probablement liées à ces gestes barrières.
Et est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre l'inverse quand vous dites que les gens qui sont très anxieux respectent peu les gestes barrières ? On n'aurait pas pu s'attendre au contraire justement que cette anxiété-là par rapport à la maladie fasse en sorte qu'ils soient davantage enclins à se laver les mains, à mettre un masque, à respecter ces distances-là ? Ça vous a surpris ça ?
Complètement. C'était exactement ce qu'on... Nous, on attendait tout à fait l'inverse. En fait, on avait formulé une hypothèse en amont qui était que avoir une grande tendance à l'anxiété devrait s'exprimer plutôt dans de l'inquiétude vis-à-vis de la santé et dans un respect des gestes barrières. Et en fait, on s'est aperçu totalement de l'inverse. C'est-à-dire qu'on avait une relation avec une moindre tendance à porter le masque, à utiliser du gel hydroalcoolique. Enfin bon, on a été très surpris de
ça. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes arrivé à cette conclusion ?
Alors, on est parti, on a expliqué ça par le fait que la situation était certainement trop anxiogène. Donc, à un moment donné, trop d'anxiété liée à une situation donnée amène à l'éviter. Le rejet total. En plus, on s'est aperçu que beaucoup de ces individus qui avaient une tendance marquée à l'anxiété étaient en quarantaine, enfin en quarantaine, du moins s'isoler socialement. Donc, il est probable qu'à partir de là, ils étaient moins confrontés à l'environnement et donc aient moins eu besoin d'adopter aussi ces gestes barrières.
Alors, est-ce que votre étude, elle donne des pistes pour inciter davantage les gens, justement, à respecter ces gestes barrières ? Est-ce que, finalement, il faut adapter un discours aux gens anxieux ? Est-ce qu'il faut...
C'est exactement l'idée. C'est exactement l'idée. L'idée, c'est d'arriver à dégager des typologies, mais des profils, en fait, d'individus qui sont plus ou moins sensibles aux messages. Et en fait, l'idée, c'est de personnaliser les messages à partir de là. On a réussi, enfin du moins l'objectif de ce type d'étude-là, c'est clairement de questionner la personnalisation, l'individualisation des messages. Et là, finalement, on se dit peut-être qu'il faudrait adapter les messages au niveau, en tout cas, d'instabilité émotionnelle, au manque de caractère consciencieux, au manque d'extraversion, quoi.
Est-ce qu'il y a des pays qui le font ? Parce que souvent, en termes de prévention de politique publique, on a un message unique pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des pays qui sont dans cette démarche-là, d'adapter ce message-là en fonction des publics ?
Pas du tout. Pas du tout. En fait, on est sur des messages qui sont très généraux et qui sont... Disons qu'on est quand même un peu au début de l'histoire, j'ai l'impression. Donc, pour le coup, on n'a pas encore de messages qui sont tout à fait individualisés. Mais en tout cas, s'ils le sont, après, l'idée, c'est vraiment de les individualiser au profil des individus, quoi.
Et du coup, sur les autres comportements, là, on parle des gestes barrières. Vous avez parlé de la préparation, justement, de dire les gens qui font des stocks de nourriture, de papier toilette en prévision de la pandémie. Vous les avez trouvé corrélé à certains traits de personnalité également, ces comportements ?
Oui, on a trouvé à peu près les mêmes traits qui étaient liés à ces comportements d'anticipation, en fait. On s'est aperçu que les gens qui avaient un niveau élevé d'extraversion étaient des gens qui préparaient beaucoup, qui anticipaient beaucoup les conséquences de l'épidémie. Pareil pour les gens qui avaient un niveau élevé de caractère consciencieux. Par contre, là, les gens qui avaient un niveau élevé d'instabilité émotionnelle n'anticipaient pas. Faisait pas de stock de quoi que ce soit.
Oui, on est toujours dans ce fameux rejet, quoi.
Complètement.
C'est-à-dire le déni de la situation.
Ouais, et puis le fait de se dire que peut-être que ça va passer vite.
Oui.
Quel autre comportement, justement, vous avez évalué ? Donc là, on a parlé de la gestion des stocks, on a parlé des gestes barrières. Les autres corrélations pertinentes ?
Alors, nous, on a travaillé aussi un peu sur... alors, avec une autre cohorte, on a travaillé sur l'activité physique. Donc, par exemple, on a établi une relation entre la personnalité et le fait de pratiquer une activité physique pendant la pandémie et avec les comportements de sédentarité, c'est-à-dire le nombre d'heures à rester assis dans une journée. Et on trouve, encore une fois, une relation assez intéressante. Alors, les gens qui ont un niveau élevé d'instabilité émotionnelle sont moins actifs physiquement pendant la pandémie, sont plus sédentaires. Les gens qui sont plus extravertis, qui sont plus consciencieux et plus agréables, eux, par contre, vont avoir une pratique d'activité physique plus fréquente durant la pandémie.
Mais est-ce que c'était déjà le cas avant la pandémie ? Est-ce que ce lien était le même ou est-ce qu'il a changé ?
On retrouve exactement les mêmes relations que ce qu'on retrouve hors période de pandémie. Donc, ça veut dire que ce sont des traits qui sont très intéressants dans une perspective justement de prédiction des individus qui vont développer encore plus de risques liés au contexte de pandémie, au risque de sédentarité ou d'inactivité physique.
Et avec d'autres facteurs, je pense par exemple, là on parle de personnalité, mais il y a des gens qui sont des personnes à risque, on pense normalement aux personnes âgées. Oui. Est-ce que ça a été pris en compte ? Parce qu'est-ce qu'une personne âgée aurait plus tendance à se protéger, à respecter les gestes barrières, parce qu'elle sait qu'elle est plus sensible face à l'éventualité de la maladie ? Est-ce que ça s'est mis en corrélation également avec la personnalité ou c'est un facteur indépendant ?
Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les traits de personnalité s'exprimaient plus ou moins en fonction de l'âge. Et en fait, on s'est aperçu que les personnes âgées les plus consciencieuses s'engageaient dans plus de comportements de prévention que les personnes plus jeunes, qui étaient consciencieuses aussi. Donc en fait, on s'est aperçu souvent, dans cette étude en tout cas sur les gestes barrières, qu'on avait des variations en fonction de l'âge, et notamment qu'avoir un niveau élevé de caractère consciencieux pouvait s'exprimer encore plus fortement aux âges les plus avancés. Notamment, effectivement, parce que ces personnes âgées qui sont plus consciencieuses vont prendre plus rapidement conscience des risques et vont plus s'engager dans la prévention, quoi, dans la protection.
Vous nous l'avez dit en début d'émission, donc cette cohorte, elle était nord-américaine.
Ouais.
Vous avez-vous constaté des différences ? C'est-à-dire que ces résultats n'auraient peut-être pas été les mêmes avec une cohorte européenne. Il y a la culture qui entre en ligne de compte.
La culture et puis les politiques de santé publique. C'est-à-dire que à ce moment-là, en Amérique du Nord, le confinement n'était pas quelque chose d'obligatoire, quoi, comme ça pouvait l'être ici. Donc les implications n'étaient pas les mêmes en termes de comportement et de gestes barrières. C'est clair que ce qu'on obtient là est très spécifique au contexte. On s'attend en tout cas à des variations. Par exemple, on a des cohortes britanniques. On n'a pas d'accès à des données en France, mais on a des cohortes britanniques. Et on peut penser que le contexte culturel va faire varier ces relations aussi, en fonction des messages de politique publique et de prévention, quoi, clairement.
Et dans les autres facteurs que vous aviez étudiés, on a parlé aussi du poids et de la consommation d'alcool en lien avec la pandémie. Qu'est-ce que vous avez étudié par rapport à ça et qu'est-ce que vous avez trouvé ?
Alors, on a, en plus de l'activité physique, là, on vient de terminer un travail sur la consommation d'alcool, alors dans une cohorte britannique, donc avec un contexte un peu particulier en termes d'habitude et de consommation d'alcool. Et on s'est aperçu que les traits de personnalité évalués avant la pandémie prédisaient le risque de développement je dirais pas de troubles, mais en tout cas prédisait le risque de consommation lourde d'alcool. On s'est aperçu notamment que les individus qui ont un niveau élevé d'extraversion sont des individus qui, pendant la pandémie, vont avoir tendance à consommer plus d'alcool qu'ils ne le faisaient avant. Donc là, on a encore une fois un lien qui s'opère non seulement entre la personnalité et l'adoption de gestes barrières très spécifiques à la pandémie, mais aussi globalement à l'adoption de comportements de prévention habituels, je dirais, pendant cette période-là, quoi.
Et sur le poids, comment est-ce que vous avez pu faire un lien entre le type de personnalité, poids et pandémie ou comportement lié à la pandémie ?
Alors, sur le poids, en fait, on a demandé à chaque fois le poids et la taille. En fait. Donc c'est un peu biaisé parce qu'on demandait aux gens de nous rapporter leur poids et leur taille. Et l'idée, ça a été de regarder si les traits étaient associés à l'évolution du poids de corps. Alors, on n'a pas de relation franche, en fait. On n'a pas de relation franche entre la personnalité et l'évolution du poids de corps, comme on en a avec, par exemple, l'activité physique ou la consommation d'alcool. Ça, on a été un petit peu surpris de cette absence de relation. Mais l'évaluation, peut-être, est un peu biaisée de ce côté-là, parce qu'on n'a pas accès à des données objectives qui seraient plus intéressantes.
Donc, cette étude, on l'a dit, elle pourrait permettre de mieux gérer cette épidémie, par exemple, en individualisant les messages adressés à la population. Quelle autre piste on pourrait avoir pour mieux gérer cette épidémie en prenant en compte donc, ces traits de personnalité?
Alors, il y a l'individualisation des messages, il y a la détection la plus précoce des individus à risque aussi. En fait, nous, l'idée que l'on a derrière, ça va être clairement d'essayer d'associer ces traits de personnalité à l'incidence des cas, c'est-à-dire au risque d'être positif, en fait, et de développer le Covid. Et en fait, derrière, ça va être d'essayer, en complément des données biomédicales ou démographiques, ça va être d'impliquer un petit peu plus l'évaluation de la personnalité dans la détection des individus à risque. Pour non seulement développer des messages, mais aussi, par exemple, mettre en place des actions de prévention des comportements risqués. Juste un exemple, par exemple, sur l'activité physique, ça va être de détecter les individus qui sont plus à risque de sédentarité et envisager, par exemple, le développement de programmes individualisés pendant cette période de pandémie pour éviter que cet état de sédentarité persiste.
D'accord, donc ce serait sur des pathologies associées, mais par exemple, est-ce qu'il y a des traits de personnalité qui fait qu'on peut plus facilement attraper le Covid? Par exemple, vous parliez des traits de personnalité extravertis qui vont pousser à boire un peu plus d'alcool. Ouais. Est-ce que ça, par exemple, c'est un facteur?
Alors, c'est vraiment la suite logique par rapport à l'étude sur les gestes barrières, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit que ces traits de personnalité qui sont associés à l'adoption de gestes barrières vont être associés peut-être derrière, logiquement, au risque de contracter le Covid. Alors pour le coup, les gens qui ont un niveau élevé d'extraversion sont engagés plutôt dans des comportements de prévention. Donc, a priori, ils devraient présenter une réduction du risque de contracter la maladie. Comme les gens qui ont un niveau élevé de caractère consciencieux. Par contre, les gens qui ont un niveau élevé d'instabilité émotionnelle, on se pose la question de savoir si, à un moment donné, ils vont être plus à risque ou pas de développer le Covid. Mais c'est tellement, en fait, le mode de contagion est tellement large et tellement plurifactoriel que là, encore une fois, on est sur des hypothèses qui peuvent être largement, je dirais, infirmées derrière.
L'idée, c'est quand même de se dire qu'on pourrait éventuellement dresser un portrait type en fonction des traits de personnalité, parce que pour l'instant, on a par exemple des facteurs de risque de forme grave de la maladie, mais on n'a pas de facteurs prédictifs, entre guillemets, de la probabilité d'être contaminé par la maladie.
C'est ça.
D'attraper le Covid. Donc ça pourrait éventuellement vous permettre de dire, telle personne, en fonction de ses traits de personnalité, elle fait partie des personnes plus à risque d'attraper le Covid.
C'est ça. Absolument. En complément des informations démographiques, par exemple l'âge.
Oui.
Par exemple l'âge ou encore le niveau de scolarité, on pourrait envisager de dresser une espèce de portrait, du moins de compléter le portrait de vulnérabilité. C'est ça.
Alors donc là, on vient de parler de l'influence des traits de personnalité sur les comportements. Mmh. Maintenant, est-ce que la situation inédite qu'on a vécue peut venir influencer ces traits de personnalité? Est-ce qu'on peut s'attendre à une modification de la personnalité des gens?
Alors justement, ça c'est aussi quelque chose qu'on a étudié et on avait une hypothèse qui était que normalement cette situation devait amener à une augmentation de la tendance à l'anxiété. Vu le caractère totalement anxiogène, incertain et nouveau de ce contexte-là, on s'est dit ça va peut-être amplifier cette tendance-là. Et en fait, on n'a pas observé de modification franche des dispositions et des traits de personnalité. Le problème, c'est que c'était sur un laps de temps qui était assez court. On a eu un suivi qui était d'un mois ou de deux mois. C'est peut-être pas suffisant pour observer une modification significative de ces traits de personnalité. Il faudrait un suivi un petit peu plus long, probablement. Mais en tout cas, on n'a pas observé de modification franche.
Merci beaucoup Yannick Stéphane d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et à nos questions. On pourra retrouver en ligne, sur le site de Divergence, un lien vers vos publications.
Merci.
Merci à vous. Et on passe maintenant à la séquence reportage en salle des machines. Et cette semaine, nous vous emmenons sur le campus Triolet pour découvrir la plateforme PIC, plateforme pour les insectes de quarantaine. Et c'est Magali Echène du laboratoire Diversité, Génome et Interaction Micro-Organismes Insectes qui nous fait la visite.
Bonjour, Je suis Magali Echen, je suis la responsable de la plateforme pour insectes de quarantaine donc qui s'appelle PIC. Là, on est juste devant le SAS, donc on va pouvoir rentrer. On va devoir s'habiller, parce que pour vous expliquer, nous, ce qu'on confine, c'est des petits insectes. Donc, on ne veut pas qu'il y ait des insectes sur les vêtements des gens et qu'on puisse sortir avec. Donc, on va devoir mettre une blouse et des surchaussures pour assurer le confinement.
Pourquoi vous laissez la porte ouverte de l'armoire à blouse ?
Ça, c'est juste à cause du Covid.
Pour quelles raisons, précisément, ils ne doivent absolument pas sortir, ces insectes que vous étudiez ici ?
Alors, c'est ce qu'on appelle des insectes nuisibles de quarantaine. Donc, ça veut dire qu'ils font partie d'une liste de la Commission européenne qui indique qu'ils ne sont pas présents dans le territoire européen et que s'ils arrivaient, ils créeraient des dégâts et des problèmes économiques. Donc pour travailler sur ces insectes-là, on doit travailler en conditions confinées. Donc on a pris le parti qu'il n'y ait pas de raccordement de l'eau à l'égout pour être sûr qu'il n'y ait aucun insecte qui puisse partir dans l'égout.
J'imagine que toutes les entrées et sorties possibles ont été envisagées, la ventilation, les fenêtres.
Effectivement, la plateforme a été conçue pour être complètement étanche aux insectes. Le sol a été travaillé pour ça. Les plafonds, les cloisons sont étanches, les fenêtres sont fixes. On a même pensé à boucher les sorties de gaines électriques ou les sorties d'évacuation d'eau des clims. À tout moment, je peux avoir un contrôle, un audit fait par la protection des végétaux du service régional de l'alimentation qui vient pour vérifier si je respecte bien ces règles.
Ici, c'est notre plateforme d'expérimentation.
Là, je vois un frigo avec écrit « insectes infestés ». Qu'est-ce que ça veut dire ? 23 degrés.
Alors, ce n'est pas un frigo, c'est une enceinte climatique, mais ça ressemble à un frigo. C'est dans ce type d'enceinte qu'on va faire nos manies pour avoir des conditions de température et d'hygrométrie et de photopériode contrôlées et qui est la mieux adaptée à l'expérimentation qu'on veut faire. Et infesté, ça veut dire que là, il y a une expérimentation en cours certainement dans lequel on a mis des nématodes, qui sont des petits vers ennemis naturels des chenilles, pour voir comment ils font pour tuer la chenille et pour voir si on pourrait s'inspirer d'eux pour créer des nouveaux moyens de lutte contre les chenilles.
On n'en a pas parlé, mais est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que la lutte biologique ?
La lutte biologique, c'est une façon de lutter contre les nuisibles sans utiliser de pesticides chimiques. Par exemple, faire des lâchers de prédateurs, comme avec les coccinelles pour tuer les pucerons. Ça peut être de la confusion sexuelle en utilisant des hormones pour déboussoler un peu et perturber les accouplements. Ou ça peut être utiliser des ennemis naturels, des bactéries ou des virus, qui naturellement tuent ces insectes.
C'est un vrai carnage chez vous, en fait.
Mais on ne tue que les méchantes chenilles.
Notre plateforme, elle est agréée pour trois insectes nuisibles. Leur nom barbare, c'est Spodoptera frugiperda, qui est aussi connu sous le nom de la légionnaire d'automne. On a aussi Spodoptera littoralis, qui est la noctuelle méditerranéenne. Et nous avons également Helicoverpa armigera, qui est la noctuelle des tomates.
Quand on voit les photos, elles ressemblent à des papillons de nuit, en fait.
Exactement. Et pour être un peu plus précise, quand on a construit la plateforme en 2013, donc on a demandé l'agrément pour ces trois insectes. Mais depuis, les deux derniers, la noctuelle méditerranéenne et la noctuelle des tomates, ont été déclassés. Donc ils ne font plus partie des organismes de quarantaine parce qu'ils sont déjà très présents en France. Mais on continue de travailler en conditions confinées parce que ça reste quand même des nuisibles et que ça ne sert à rien de mettre des nuisibles dans la nature.
Qu'est-ce qu'ils mangent, ces insectes ? Sur quel type de culture est-ce qu'ils font des dégâts ?
Trois noctuelles sont des ravageurs assez redoutables parce qu'ils sont très polyphages. Ils vont manger une gamme de plantes assez large et donc s'ils ne trouvent pas leur plante préférée, ils vont toujours réussir à se nourrir sur autre chose. Actuellement, la solution est la lutte chimique, d'où nos travaux pour essayer de trouver des moyens de lutte plus éco-responsables.
Alors là, on est rentré dans le box parasitoïde.
Donc dans ce box-là, on va étudier des guêpes parasitoïdes. C'est des toutes petites guêpes qui sont des prédateurs naturels des chenilles qu'on étudie. Elles vont pondre leur œuf dans la chenille quand elle est toute petite et en même temps, elles vont injecter du virus. Et le virus injecté par la guêpe va immunodéprimer la chenille, c'est-à-dire l'empêcher de se défendre, pour que l'œuf puisse se développer. Donc c'est une coopération, en fait, entre le virus et la guêpe. Et donc, on étudie comment ça fonctionne au niveau moléculaire.
Et donc, ce sont ces fameuses guêpes qu'on voit volter dans les petites boîtes sur le bureau ?
Exactement. Là, on voit des petites chenilles qui se sont fait parasiter, je pense.
Une fois qu'elles sont parasitées, qu'est-ce qui leur arrive aux chenilles ?
Elles meurent. De l'œuf va naître une larve qui va se développer à l'intérieur de la chenille d'abord. Puis après, quand il sera assez gros, il va sortir. La larve va tisser un cocon. Alors, je vais vous montrer les cocons, ils sont très très beaux. Et du cocon sort l'adulte.
Et elles sont toutes petites, ces guêpes.
On appelle ça des micro-guêpes. micro-guêpes. Mais elles ressemblent quand même, elles ont une taille de guêpe, si vous regardez bien de près.
Si jamais on imagine les utiliser, par exemple, dans le cadre de la lutte biologique, est-ce qu'elles vont pondre spécifiquement dans ces chenilles-là ou est-ce qu'elles peuvent aller détruire d'autres espèces de chenilles?
Alors ça aussi, on l'étudie, la spécificité d'autres. Ça dépend des espèces de guêpes, sachant que ces guêpes, elles sont déjà présentes partout dans la nature et qui régulent déjà un petit peu la pression des ravageurs.
Et si on envisageait d'en introduire davantage au niveau des cultures, est-ce que ça risque pas de perturber aussi l'écosystème?
Mais c'est quelque chose qu'il faut étudier avant de le faire, effectivement. De toute façon, avant de faire des lâchers, il faut toujours étudier l'impact que ça peut avoir sur l'écosystème. Là, on a par exemple des cocons. Là, il y a une guêpe adulte qui est en train de sortir de son cocon. Elle a fini son développement et là, elle est en train de sortir et puis après, elle va s'envoler.
Et toutes celles qui volent, là, elles sont sorties de leur cocon également.
Ouais, on voit qu'il y a des cocons qui sont vides.
Alors là, on arrive devant des boîtes dans lesquelles on voit des guêpes.
Alors, ce sont des cages. Il y a du tissu comme du moustiquaire autour et qui permettent de mettre plein de guêpes adultes à l'intérieur. Et vous voyez, au fond, il y a des chenilles. Donc, on va mettre des chenilles en contact avec les guêpes pour qu'elles puissent pondre à l'intérieur, parasiter la chenille.
Là,
c'est une boîte qui contient des papillons adultes. Donc on leur a mis du papier pour qu'elles puissent pondre dessus. Les mâles et les femelles vont s'accoupler et au bout de 1 ou 2 jours, la femelle va commencer à pondre. Et ce, pendant 2-3 jours, elle va faire des belles ooplaques, comme je vous disais, c'est-à-dire des amas d'œufs.
Est-ce que c'est ça qu'on voit sur le papier?
Non, ça c'est une tache.
Là, on arrive, enfin, c'est une dernière porte qui a écrit box virus.
Alors dans ce box, on étudie des densovirus. Donc c'est des virus spécialistes d'insectes. Comme pour les guêpes parasitoïdes, on va essayer de comprendre comment le virus tue la chenille pour voir si on peut limiter ou s'en servir pour faire de la lutte biologique. Il va y avoir des virus qui sont très spécifiques d'une espèce de chenille ou deux, ou d'autres qui vont avoir un large spectre. Donc c'est important d'avoir toutes ces données-là si un jour on veut pouvoir les utiliser dans les champs. Ce qu'il y a de particulier dans cette zone par rapport aux autres zones confinées, c'est que nous, on ne confine pas les pathogènes, puisque tous nos pathogènes d'insectes, ils sont présents dans la nature et ils ne sont pas dangereux, on peut les laisser sortir sans problème. On a l'habitude de confiner des choses microscopiques, des bactéries, des virus. Moi, je confine qui est un peu plus gros, par contre, qui marche et qui vole.
Pas la chasse aux papillons, pas la chasse aux papillons.
La science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité made in Montpellier. D'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu? Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.